En effet, j'ai des questions sur les yeux, mais après, n'hésitez pas à en poser d'autres et à intervenir. Voilà, ne me laissez pas parler tout seul de nouveau pendant trois quarts d'heure. Alors, je vais vous lire les questions, vous allez voir. Ça peut donner des idées à d'autres. N'est-ce pas tendre vers l'idéal qui est possible plutôt que l'idéal lui-même? C'est quoi l'idéal? Bon, on voit, on comprend la question. Reformuler la signification de la phrase « hors de l'Église, point de salut ». Dieu donne ce qu'il ordonne. Différence entre péché originel et blessure originelle, précisée. Dieu est créateur, a créé le monde. Pourquoi les cataclysmes naturels, la maladie, des enfants naissent avec des cancers? Est-ce que l'homme est toujours responsable du mal? Cela m'amène à douter de l'existence même de Dieu. Pourquoi fallait-il que Jésus souffre sur la croix pour nous sauver? Donc vous voyez bien que ce sont des questions très graves, hein, au sens étymologique du terme. Des questions qui ont du poids, ce ne sont pas des questions légères. Bon. Hors de l'Église, point de salut. C'est une expression très ancienne, employée par saint Cyprien de Carthage, et qui s'adressait à ceux qui, sous la persécution, étaient en train de quitter l'Église. Une fois qu'on a mis la main à la charrue, si on regarde en arrière, ça ne va pas. Donc, hors de l'Église, point de salut. Bon. Ça, c'est le contexte historique de l'expression. Cette expression, depuis, elle est employée dans un sens très étroit. Il faut être membre de l'Église pour être sauvé. Au XVIIe siècle, les missionnaires s'interrogeaient, les premiers missionnaires qui partaient vers l'Asie ou d'autres lieux, s'interrogeaient sur la nécessité ou non du baptême pour le salut de ceux qui n'avaient jamais entendu parler du Christ. Est-ce qu'ils sont sauvés ou est-ce qu'ils sont voués à l'enfer ou que sais-je? Bon. Ce sont des questions sérieuses, hein. Alors, s'il n'y a pas besoin du baptême, s'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être sauvé, à quoi bon l'être? À quoi bon la mission? Après tout, autant laisser les gens tranquilles, et puis tout va bien, si Dieu sauve... Bon. Alors, comment ça marche? Je développerai cette idée un peu plus demain, en parlant de cette définition du Concile Vatican II à propos de l'Église, qui dit qu'elle est sacrement du salut. Salut, je m'en suis expliqué déjà, ça va, c'est clair pour tout le monde. Le couvercle, double, mort, péché. J'y reviendrai puisqu'une des questions invite à y revenir. Mais en tout cas, une étanchéité sévère, totale, entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Il y a un monde de Dieu, il y a un monde des hommes, et toutes les religions tentent de les faire entrer en relation. On fait cramer les choses qui sentent plus ou moins bon, la fumée monte et on espère faire plaisir aux narines de la divinité qui, en échange, va donner la pluie quand il faut, le soleil quand il faut, etc. Et Dieu, dans la Bible, dit « j'en ai marre, je suis rassasié de toutes vos fumées, de tous vos sacrifices, de tous vos holocaustes, c'est pas ça qui m'intéresse. Bon. » Mais justement, cette expression dans la bouche des prophètes, elle fait référence à des choses très enracinées. Que ce soit à Jérusalem, à Rome, à Athènes, etc., c'est partout pareil, quoi, hein. Le principe, c'est le même. Bon. Quant à l'homme, ça monte moins facilement que la fumée. Et toutes les tentatives humaine, de dresser des tours très hautes ou des échelles qui montent vers le ciel, ben on monte, mais au bout d'un moment, on ne monte plus. On bute. Bon. Le culte, je me souviens, le prof de théologie au séminaire, quand il avait introduit le cours sur le ministère, avait dit « Bon, nous allons parler du plus vieux métier du monde, prêtre. » C'est vrai, depuis que l'humanité est humanité, elle a des sacerdoces, elle a des cultes, elle a des temples. Pour entrer en contact avec la divinité et bénéficier des biens qui sont de ce côté-là. Bon. Temporairement, dans le temps du culte au temple, tant que la fumée monte, ben, y a un petit échange qui se passe. Mais il faut recommencer sans cesse. Le but, c'est de mettre en contact le ciel et la terre, on est d'accord. L'Épître aux Hébreux, je redirai ça demain, dit qu'en Jésus, ce contact entre le ciel et la terre, il est réalisé de manière indépassable et parfaite une fois pour toutes. La théologie dit une personne de nature. Jésus, dans la singularité de sa personne, unit à la fois la nature humaine et la nature divine. Vrai homme, vrai Dieu, dit la foi, ce qu'on dit dans le credo. Ce que visaient tous les sacerdoces de tous les temples, de toutes, est réalisé parfaitement, de manière indépassable, par Jésus. Il unit le ciel et la terre. Ça y est. Le couvercle est percé. Et il se tient à la croisée des deux mondes. Et il maintient en lui-même, en sa personne, ce va-et-vient permanent entre le ciel et la terre. L'Épître aux Hébreux dit, il est à la fois le prêtre, la victime, l'autel, etc. Donc imaginez, faisant un schéma, le ciel en haut, la terre en bas, un double couvercle entre les deux, un tuyau qui traverse, le tuyau s'appelle Jésus-Christ. Vrai Dieu, vrai homme, une seule personne. Premier point. Deuxième point. L'Église, dans la foi des chrétiens, est identifiée comme étant le corps du Christ. Le corps du Christ. Par voie de alors c'est saint Paul qui développe tout ça. Bon. Alors, par voie de conséquence, si l'Église est le corps du Christ, elle est donc la visibilité, la prolongation dans le temps de l'histoire du Christ dans ce qu'il est lui. Le Christ, il est ce tuyau entre le ciel et la terre. Eh bien, l'Église, qui est le corps du Christ, est la même chose. Elle est donc sacrement du salut. Sacrement, c'est un mot qui se décline en deux fonctions, signe et instrument. Le signe montre une réalité invisible, l'instrument réalise ce que le signe a montré. Je développerai demain. Mais retenez juste ça, signe et instrument. Jésus, comme signe, il est prophète, il parle, il annonce, il donne à voir, il donne à entendre. Comme instrument, il ne se contente pas de promettre pour demain, mais il fait ce qu'il dit. Il réalise le salut. Et donc, il est bel et bien à la croisée des deux. Il est là. Et ça passe. En effet, ça marche. Ce n'est pas simplement un signe qui donne à voir quelque chose, mais un instrument qui fait ce qui est montré par le signe. C'est les deux. Sacrement, ça veut dire ça. Ça, c'est Jésus. L'Église, corps du Christ, eh bien, à la suite de Jésus, elle est aussi sacrement, signe et instrument du salut. Bon. Ça veut dire que si vous enlevez l'Église, il n'y a plus... Le trou se referme dans la voûte étanche, là. Il faut l'Église qui prolonge Jésus à cet endroit-là pour que ça continue de marcher. Jésus, le jour de l'ascension, il dit « il faut que je diminue pour que vous grandissiez ». Il retourne, ça y est, il a fait son job, il retourne vers le Père. Et il confie à l'Église de poursuivre ça jusqu'à son retour, à la fin des temps. Et donc il laisse l'Église pour faire ce qu'il a commencé. Et il lui donne l'Esprit Saint pour l'étendre, non pas à quelques paralysés, aveugles et sourds, mais à l'humanité tout entière, à la création tout entière, et à l'histoire tout entière. L'Église, elle est ce sacrement du salut, c'est-à-dire le Christ prolongé dans le temps de l'histoire, qui met en relation les hommes et Dieu. Alors imaginez, le monde d'en bas, le monde d'en haut, et entre les deux, qui tient le ciel ouvert, le Christ, l'Église. Si l'Église disparaît, poum, ça se referme. Et l'expression « hors de l'Église, point de salut » veut dire ça. L'Église est nécessaire à cet endroit-là pour que tous les autres puissent, pour que la communication puisse passer dans les deux sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire partie de l'Église pour que ça marche. Ça veut dire que l'Église est nécessaire à cet endroit-là pour que ça marche pour tous. Vous comprenez ? Imaginez un couvercle de cocotte minute, bon, étanche, vous enlevez les sifflets, la pression monte, le gaz ne s'échappe pas. Imaginez l'Église comme un trou percé dans ce couvercle, le gaz va s'échapper. L'Église, c'est le trou. Le gaz, c'est la création, c'est le monde, c'est tous les autres. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait l'Église. Et pour qu'il y ait l'Église, il faut qu'il y ait quand même des gens dedans. Et donc, il faut sans cesse... Et alors, après, c'est plus complexe que ça. Hein. Plus il y a des gens qui font partie de l'Église, qui sont familiers de Dieu, familiers de son Évangile, et qui vivent selon l'esprit de l'Évangile, plus ça accélère la date du retour du Christ, ou anticipe la date du retour du Christ, parce que le monde sera prêt à entrer dans la vie de Dieu par familiarité. Bon. Mais... En termes langage philosophique, ce n'est pas une nécessité absolue d'appartenir à l'Église pour être sauvé. C'est ça la foi des chrétiens. Mais il est nécessaire qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait l'Église et qu'il fonctionne comme ce que le Christ a prévu, pour le bénéfice de tous. Voilà. Ça va ? Ça clarifie l'expression. Hein. Et donc l'interprétation, ce n'est pas une interprétation étroite, sectaire, mais une interprétation, au contraire, très large, et qui ne démotive pas de la mission. Voilà. Je me souviens, quand j'étais pas supérieur encore, du séminaire de Toulouse, on avait fait un pèlerinage à Rome, et on avait été reçu par un jésuite, qui était patron de la fac de théologie de l'université grégorienne. Et il explique, blablabla, bon. Et après, question-réponse. Et des séminaristes, un petit groupe un peu pénible à l'époque, là, bien raide, et qui voulait mettre le supérieur en difficulté devant les autorités romaines, posent la question, hors de l'Église, point de salut, comment comprendre ? On dit chez moi, ils n'avaient pas levé le pied, qu'il leur avait déjà vu la semelle, et ce brave jésuite, bien malin, leur a donné l'explication que je vous donne. Voilà. Et je me suis dit, ce qu'il a dû se dire aussi, oula, lui, il s'expose, il paraît que les Français sont très bons pour ça, à une lettre de dénonciation à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Bon. Et alors, de manière très malicieuse, il a expliqué un peu plus tard qu'entre autres fonctions, le cardinal Ratzinger, à l'époque préfet de la dite Congrégation, l'avait invité comme expert théologique pour examiner toutes les plaintes qui viennent du monde entier concernant des professeurs ou des auteurs de livres, etc., pour son expertise théologique, justement. Donc, c'était très bien. Voilà. Bon, voilà, donc l'interprétation qu'il faut privilégier, de manière la plus officielle qui soit, c'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Le jésuite en question, c'est l'actuel préfet de la congrégation, c'est le cardinal Ladaria. Bon. Dieu donne ce qu'il ordonne. Je ne sais pas si c'est une note ou si c'est vraiment une question ou une demande de précision. Explicité. D'accord. Dieu formule les choses en termes de commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis, etc. Impossible. Ratzinger, d'ailleurs, devenu Benoît XVI, dans sa première encyclique, intitulé « Dieu est amour », s'interroge, alors il développe l'amour de manière très savante, selon les trois termes grecs, les trois niveaux d'amour, bon, très bien. Puis, il formule la question « Est-il possible de commander d'aimer ? Est-ce que c'est possible d'aimer sur commande ?» Réponse « Oui ». Pourquoi ? Parce que aimer est un acte humain, et pas simplement un sentiment, un affect sur lequel on n'a aucune prise. Mais un acte humain est par définition, pour qu'un acte soit humain, il faut qu'il soit libre et volontaire. Et donc, on peut décider d'aimer. Et les sentiments viennent après, et ils viennent. Il écrit ça comme ça. On peut décider d'aimer, et les sentiments viennent après, et pas l'inverse. Alors c'est un peu trash quand même, hein, comme propos et comme affirmation. Mais quand on y réfléchit, alors pour dire comment ça marche, il rappelle cet adage de saint Augustin, « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Humainement, c'est impossible. Mais avec l'aide de Dieu, si on croit en Dieu, alors ça devient possible parce que Dieu donne ce qu'il ordonne. S'il nous commande d'aimer, ça veut dire que c'est possible de le faire, puisque Dieu a raison. Même quand ma raison cale, Dieu a raison. Je vous dirai un truc après à propos de ça, tiens. Premier élément. Mais ensuite, il me donne la capacité de faire ce qu'il m'ordonne. Et ça, dans la foi, je l'accueille. Dieu donne ce qu'il ordonne. Je l'accueille. S'il m'ordonne d'aimer, il me donne de le faire. Et dans la foi, j'accueille donc cette capacité que je m'ignorais. Vous voyez ? C'est un sacré acte de foi. Hein ? Alors ça renvoie à Marie et à l'Annonciation. Moi, j'aime bien Marie à l'Annonciation parce qu'elle pose des questions. Elle ne dit pas « c'est comme ça parce que l'Église l'a toujours dit ou l'a toujours fait comme ça ». Non. Elle interroge « comment ça va se faire ?» Et là, je donne une explication qui n'en est pas une. Bon. Et au bout du compte, elle dit « ben, soit, ainsi soit-il ». Bon. Elle articule dans cet échange avec Dieu sa foi et son intelligence, sa capacité à faire confiance, et sa capacité à comprendre. De ces deux capacités, une va lui permettre de faire un pas de plus par rapport à l'autre. C'est la confiance. Mais ce n'est pas parce qu'elle a la foi qu'elle n'est pas intelligente, qu'il lui est demandé de renoncer à son intelligence. Elle va jusqu'au bout de ses capacités rationnelles. Et puis le pas supplémentaire, le pas ultime, c'est seulement la confiance qui lui permettra de le faire. Un jour, quand j'ai vu le film Indiana Jones et la dernière croisade, j'ai été éclairé par Spielberg sur la manière dont ces deux facultés humaines s'articulent, la foi et l'intelligence, et comment une des deux est supérieure, plus grande, ou en tout cas permet d'aller plus loin. Vous avez vu le film ? Un archéologue qui trouve le carnet de notes de son archéologue de père, passionné par une seule chose, la quête du Saint Graal, supposé donner la vie, etc. Ce carnet, ce n'est pas un GPS qui dit clairement, deuxième à droite, continuez tout droit, faites demi-tour dès que possible. Bon. Mais c'est des dessins, des chiffres, bon, il faut phosphorer pour chaque fois décrypter les énigmes et aller de l'avant. Il le fait parce qu'il a confiance que ça va le mener, en effet, au terme de sa quête. Il le fait aussi parce qu'il aime son père et qu'il veut le retrouver. Donc, quand c'est dur, ben, c'est bon. Confiance et raisonnement. Et chaque fois, l'étape suivante montre qu'il a eu raison de faire confiance et que son intelligence a bien marché, puisque chaque fois, ça avance. Et ça dure 2 heures comme ça. Bon. Au bout de 2 heures, on arrive dernière demi-heure du film. Il lui reste encore trois énigmes à décrypter, 3 pièges à éviter. Il est devant une grotte, une montagne, et le Graal est au bout de la grotte, c'est sûr. Ça y est, il le voit maintenant. Mais il lui reste encore trois pièges. Évidemment, il y a des ennemis qui font la course en même temps et qui, eux, bêtes et méchants, foncent toujours tête baissée, sans réfléchir. Bon. Et là, ils se retrouvent ensemble à l'entrée de la grotte. Première énigme, seuls les humbles devant Dieu peuvent avancer. Bon. L'ennemi qui a vu le Graal et un chevalier de la table ronde qui fait coucou de l'autre côté de la grotte, fonce, sans réfléchir à la solution de l'énigme, et se fait décapiter instantanément par un piège qui a été placé par les chevaliers dans la grotte. Seuls les humbles devant Dieu, les humbles, il faut baisser la tête, et boum, la lame passe au-dessus, ça marche. Deuxième étape, tu seras sauvé par le nom de Dieu, un dallage, avec des lettres. Yahvé. Alors, il faut mettre le pied sur les bonnes lettres. Ils confondent le I et le J. Et boum, il y a les crocodiles au fond, ils se rattrapent juste à temps. Bon, bref, ça marche, ils passent. Troisième étape, et c'est là que c'est génial. Il est devant un précipice, la grotte est cassée par un tremblement de terre. Bon. Le terme est pile de l'autre côté d'un ravin. Il n'y a pas, il y a rien, enfin, il ne voit rien entre les deux. Là. Il ne voit pas comment il peut passer d'un côté à l'autre. Il ne voit pas. Il a beau réfléchir, ça y est, son intelligence arrive au maximum de ses capacités, et là, ça cale. Tout ce qu'il a, c'est le livre, le carnet de notes de son père, et là, il y a un dessin. Et le dessin montre un chevalier de la table ronde qui marche dans le vide, entre les deux parois de la grotte. Alors, on voit qu'il est très, très angoissé, tout ça, mais il sommet de faire un choix. Et je trouve que là, c'est génial. Il ferme les yeux. Il met un pas dans le vide. Alors, dans le cinéma, tout le monde retient son souffle. Et boum, son pied bute sur un pont en pierre qui a été taillé astucieusement, de telle sorte que la perspective, etc., fait qu'il a été rendu complètement invisible en se fondant dans la paroi d'en face. Une fois qu'il y a mis le pied dessus, ben, il voit bien qu'il y a un pont. Alors il balance du sable pour traverser facilement, et puis les ennemis suivent en courant derrière. Bon. Mais au moment où il fait le pas, la seule chose qui font tout le film, confiance et raisonnement. Ça l'a amené jusque-là. Là, il ne lui reste plus que la confiance. Et il n'y a personne qui le pousse dans le dos pour le forcer à vérifier, mais si, vas-y, tu vas voir, ça marche. C'est sa décision. Et ça, c'est génial. Marie, c'est la même chose. Elle discute, puis à un moment donné, il ne lui reste plus que la confiance pour dire oui. Dieu donne ce qu'il ordonne. Oui ou non, faisons-nous suffisamment confiance à Dieu pour qu'au moment où notre raison arrive au bout de ses capacités, qu'elle cale, elle ne comprend plus, eh bien on formule quand même que Dieu a raison, même si ma raison ne suit plus à ce stade-là. Mais cette décision-là, elle n'est pas absurde s'il y a eu tout le processus avant, ou quand même ça a marché. Si le film commence par cette scène, on ne comprend rien. Cette scène, au moment du film, elle n'est pas absurde parce qu'il y a eu 2 heures avant où on a vu comment ça s'articulait tout le temps. Moi, je me dis que quand on est en dialogue avec des gens qui ne partagent pas la foi, on peut au minimum ensemble aller jusqu'au bord du truc. Là. Et puis le croyant, c'est celui qui fera le pas et l'autre, celui qui ne le fera pas. Les deux sont respectables dans leur choix si tout a été bien fait avant. Voilà. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est un adage de la théologie qui formule que si Dieu formule un commandement, la joie, l'amour, la fécondité, je ne vois pas comment, mais je crois qu'il a raison, même quand ma raison cale. Parce que je suis croyant, c'est ça la définition de ma foi. Mais pour autant, je ne suis pas un imbécile quand même. Quoi. Enfin, en tout cas, j'espère. Enfin, voilà, hein. On verra bien, Pascal il dit, vous verrez bien. Faites le choix que vous verrez, faites le moins. Voilà.
On sait bien que si on n'arrive pas à pardonner, il nous donne la grâce de pouvoir pardonner.
Dieu donne ce qu'il ordonne. Voilà. Après, il n'ignore pas non plus la nécessité du temps, des 2 heures de film nécessaires avant, du dialogue de Marie avec l'ange, mais le dialogue en question, il vient à un moment de sa vie où déjà elle a formulé plein de choses dans sa relation à Dieu et ses projets avec lui. ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et donc le pardon, quand j'étais jeune séminariste, je crois, un prêtre de Tarbes a été assassiné, sans faire exprès, je dirais, pas à cause de sa foi ni quoi que ce soit. Il est rentré 11h du soir d'une réunion à la maison diocésaine. Un voleur était en train d'essayer de bidouiller une voiture. Sans réfléchir, il se précipite, il a pris 3 coups de couteau dans le ventre, et puis voilà. Et l'autre, il n'a pas assassiné un prêtre, il a assassiné le gars qui essayait de l'empêcher de voler une voiture. Alors c'était un an après son ordination. L'enterrement à la cathédrale de Tarbes, ils avaient repris la famille, très catho, il y a un autre prêtre dans la famille, ils avaient repris les chants d'ordination un an avant. Alors c'était joyeux les chants, mais l'ambiance, elle ne l'était pas. Et puis ils ont tenu à dire qu'ils pardonnaient à l'assassin, tout ça, 3 jours après. Moyennant quoi, 2 ans après, il écrivait un livre où enfin il pouvait exprimer sa folie et sa souffrance, le frangin. Ça va pas, il faut laisser du temps au temps, quoi. Jésus, il pleure devant le tombeau de Lazare. Il sait, pourtant, enfin, il a foi en Dieu, Jésus. Enfin, bon. Il pleure devant le tombeau de son ami. Voilà. Et il faut laisser ça se vivre aussi. Et le pardon, ben, en fonction des blessures reçues, il faudra peut-être toute une vie pour arriver au moins à désirer le formuler. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive encore. Mais c'est pas grave. Enfin, j'ai envie de dire, le temps n'a pas d'importance. Mais l'essentiel, c'est d'être dans ce processus ou cette dynamique, quoi. Dieu donne ce qu'il ordonne, mais il ne pousse pas les gens dans le dos pour les forcer à monter sur le pont malgré eux. Voilà. En même temps, les psychologues savent repérer que c'est en effet dans cet acte de pardon que la vraie libération permettra de passer à autre chose. Mais bon, ça ne se commande pas comme ça. Voilà. C'est là que la foi est importante, quoi. Seigneur, je veux pardonner, je n'y arrive pas, donne-moi de le faire. Voilà. Je veux le faire. Et je sais que tu veux me donner de le faire, mais... Fait que ça marche, quoi. Bon, alors, différence entre péché originel, blessure originelle. Alors, c'est une petite coquetterie perso, hein. Enfin, pas que perso, mais l'AOC, c'est péché originel. Bon, dans les livres de théologie, on parle de péché originel. Sauf que il faut distinguer le péché originel du péché actuel. Et le même mot désigne 2 postures très différentes. Derrière péché originel, il y a le péché de quelqu'un. Alors, bon, péché de l'ange déchu, enfin, ou décision d'un ange déchu qui a enclenché un dysfonctionnement général dans la mécanique. Bon. Décision d'une liberté qui a dit non à Dieu. Quelque part. Et aujourd'hui, d'ailleurs plus que jamais, on a conscience que ce que fait un être vivant quelque part a des conséquences sur l'ensemble du monde vivant, en bien et en mal. La sensibilité écologique d'aujourd'hui, elle s'appuie sur cette conviction-là, cette expérience-là, finalement. Bon. Eh bien, cette expérience, elle est portée par la tradition biblique. Un qui dit non à Dieu quelque part enclenche du non. Les autres qui viennent après, ils sont pour rien. C'est pas leur décision à eux. Mais ils adviennent dans un monde où il y a déjà du non. Et ce non à Dieu enclenche un dysfonctionnement. Et donc, quand on entre dans la vie, on entre dans un monde qui est déjà marqué par un refus de Dieu, un refus de la vie, un refus. Bon. C'est ça qu'on désigne comme péché originel. Alors le péché des origines qui a enclenché une chaîne qui fait que quand je nais marqué par le péché originel. C'est pas ma faute à moi, c'est un mal déjà là que je subis. C'est pour ça que le terme de blessure correspond mieux. Parce que le terme de péché fait référence à la liberté. pour qu'un acte posé soit un péché, il faut que je sois libre de le poser ou de ne pas le poser. Sinon, ce n'est pas un péché. Ça peut être un crime aux yeux de la loi, ça peut être tout ce que vous voulez, mais pour être qualifié de péché, il faut de la liberté, au moins un peu. C'est pour ça que je préfère réserver le terme de péché à ces situations où la liberté personnelle est réellement engagée. Blessure rend mieux compte de cette réalité déjà là, avant ma liberté, quoi. Mais après, c'est des subtilités pas très... Je saute la question intermédiaire pour y répondre plus longuement, pour aller à la question d'après. Pourquoi fallait-il que Jésus souffre sur la croix pour nous sauver ? Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Au Moyen-Âge, il y a eu beaucoup d'interrogations sur ce thème-là. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Pour nous sauver. Et nous sauver de quoi ? Du péché, pas seulement. Alors, il y a des écoles théologiques qui s'affrontent. Bon, mais aujourd'hui, qui se sont affrontées. Aujourd'hui, Dieu nous sauve de quoi ? De la mort et du péché. Pas seulement du péché, mais aussi de la mort. Depuis que l'homme est homme et qu'il voit le ciel, il veut y aller. Sauf que lui, il est mortel, il est fini. Et il ne peut pas se donner à lui seul ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a pas. La révélation biblique dit « Dieu veut nous partager sa vie ». Et si ce n'est pas l'homme qui peut monter l'échelle, c'est Dieu qui va la descendre. Dieu traverse le ciel dans un sens pour venir donner sa divinité, ses qualités divines, d'éternité, de perfection, etc., à l'homme en qui, le créant, il a mis le désir de ça. Dieu, en créant l'homme, a mis en lui le désir de ces qualités-là. Mais parce que l'homme est mortel, il ne peut pas satisfaire lui-même ce désir-là, cette aspiration. C'est donc Dieu qui vient lui donner de la satisfaire. Et il vient s'unir à son humanité pour ça. Mêler son humanité, sa divinité à l'humanité de l'homme. Et ça, il le réalise en Jésus. S'il n'y avait pas eu le péché, le dysfonctionnement enclenché par la première liberté qui a dit non, on en serait resté là. Il n'y aurait eu besoin que de Noël pour que la divinité de Dieu et l'humanité de l'homme s'unissent en Jésus. Et ça suffit. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Basta. Manque de bol, l'homme est beaucoup plus bas encore que ce qui était prévu au départ. L'homme est blessé, l'homme est jusqu'aux enfers. Eh bien Dieu qui descend épouser l'humanité dans sa condition humaine, finie, pour pouvoir lui donner son éternité, doit lui aussi descendre encore plus bas. Et parce qu'il y a du péché, Noël ne suffit pas, il faut aller jusqu'à Pâques. C'est comme ça. C'est le même mouvement, si vous voulez, qui est derrière la descente de Dieu dans l'humanité de l'enfant de la crèche et de la descente de Jésus jusqu'aux enfers. Et donc, ça passe par l'expression de l'enfer qui est la croix. Sur la croix se synthétise tout le mal, la trahison, le mensonge, l'infamie, enfin, tout ce que vous voulez. C'est la condition de certains hommes, pas de tous, mais de certains. Eh bien, Dieu, dans la logique de ce mouvement de descente premier, puisque le but c'est de faire partager à l'homme ce qu'il est, eh bien, il va le chercher jusque là où il est. Voilà. Et il doit aller au plus bas pour ça.
La question qu'on peut se poser,
Oui. Le prof, quand j'étais au séminaire, le prof de Bible, pour me raconter comment la Bible s'était construite, a pris un oignon qu'il a coupé en deux. Et il a enlevé, en partant du centre de l'oignon, un morceau d'un côté, un morceau de l'autre, en disant la Bible s'est construite comme ça. Et l'histoire, elle est construite comme ça aussi. Jésus est au cœur de l'histoire et il sauve aussi bien l'après que l'avant. Bon. Pourquoi il n'est pas arrivé avant ? Pour que son débarquement soit un débarquement sauveur et pas une invasion. Pour que le débarquement de Normandie ne soit pas l'arrivée en Irak des troupes américaines. Il faut pour ça préparer le terrain et faire désirer cette libération. Et la mission, ça sert à ça. Ça sert à préparer un désir, à éveiller un désir de ce qui va venir. J'aime dire qu'en régime chrétien, la course est gagnée quand le dernier a passé la ligne d'arrivée, pas quand le premier qui court le plus vite le fait. Quand le dernier passe la ligne d'arrivée. Et il faut que personne ne reste en rade sur le bord du chemin, quoi. Mais pour ça, ça prend du temps. Il a fallu 1000 ans de préparation pour passer d'Abraham à Jésus, 1200 ans. J'aime bien repérer que tous les textes de la vigile pascale, dans leur agencement, racontent ces 1000 ans, en gros, de préparation. Dieu se dévoile au fur et à mesure à la hauteur de ce que ceux à qui il s'adresse peuvent recevoir. Alors en prenant les textes tels qu'ils sont organisés, la Genèse, c'est l'âge de la toute petite enfance, la naissance, Dieu nourrit, Dieu donne la vie. Voilà. C'est vrai, c'est partiel, mais c'est juste. Bon. L'étape suivante, l'exode, c'est l'âge scolaire. Mon papa, il est plus fort que le tien. Et on chante la Marseillaise, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Bon. Pour les Égyptiens, c'est pas sûr que l'annonce de ce Dieu-là soit très positive, mais c'est une étape. L'étape suivante, c'est l'adolescence. Et on a les prophètes Amos, Osée, Jérémie et d'autres qui ont des mots absolument magnifiques, le cantique des cantiques, pour affiner le visage de Dieu, qui se révèle un peu plus. Bon. Jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, 2e siècle avant Jésus-Christ, 150 ans à peu près, on pense que le signe qu'on est quelqu'un de juste, quelqu'un qui est accordé à Dieu et que Dieu bénit et à qui il donne la vie et sa vie, c'est le fait qu'on ait beaucoup de chameaux, beaucoup de terres, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Si ce n'est pas le cas, eh bien ça veut dire qu'on est maudit de Dieu. Et devant un aveugle de naissance, qui est-ce qui a péché, lui ou ses parents? Ni lui, ni ses parents. Bon. 2e siècle avant Jésus-Christ, quelque chose va se passer dans l'histoire d'Israël qui va casser cette théologie-là. Ce quelque chose, c'est ce qui est raconté dans le livre des martyrs d'Israël, une persécution, où ceux qui sont martyrisés, ces jours-ci, on a eu des récits absolument bouleversants du livre de Daniel et d'autres, ceux qui sont persécutés, qui meurent gamins, ou ados, ou jeunes adultes, meurent précisément par fidélité à Dieu. Alors ça casse l'image traditionnelle. S'ils n'ont pas pu avoir le temps d'avoir beaucoup de femmes, de chameaux, etc., eh bien, il y a quelque part, un lieu ou un temps où il va y avoir une session de rattrapage. L'image de Dieu, à cette étape, va s'affiner encore un peu plus. C'est pas parce qu'on meurt jeune qu'on n'est pas aimé de Dieu, alors que c'était la conviction antérieure. L'étape ultime qui va préparer vraiment sera de pouvoir reconnaître que celui qui meurt sur une croix, c'est Dieu en personne. Mais il a fallu 1000 ans pour pouvoir admettre ça. Quand Paul va raconter ça aux gens d'Athènes, ils vont l'écouter avec intérêt jusqu'à ce qu'il leur dise la crucifixion. Là, ça ne marche plus. C'est inaudible. Pour les Hébreux, il a fallu 1000 ans de préparation pour que ça soit audible. Voilà. C'est comme ça que je m'explique pourquoi il a fallu attendre si longtemps, vous voyez. Parce qu'il faut qu'on soit prêt, quoi. C'est entre le De Gaulle de 40 et le débarquement de 44, Il y a tout un travail, il y a Radio Londres, il y a la résistance, il y a tout un travail de la population de l'intérieur qui fait désirer la libération. Les Américains qui débarquent en Irak, il n'y a pas eu ce temps-là. C'est une invasion. Et Dieu ne veut pas nous envahir, quoi. Parce que la croix est ce symbole-là. La croix symbolise ça, symbolise la plus extrême souffrance de l'homme. Voilà. Alors, la question du milieu, c'est la plus costaud. Dieu est créateur, a créé le monde. Pourquoi les cataclysmes naturels ? La maladie, les enfants qui naissent avec des cancers. Est-ce que l'homme est toujours responsable du mal ? Cela m'amène à douter de l'existence même de Dieu. Et la conclusion, elle est immensément partagée. Elle est immensément respectable et immensément partagée. C'est ce que je disais tout à l'heure. La foi ne va pas de soi. Et quand on est croyant, on doit admettre que la foi ne va pas de soi. Ni pour nous. Et ni pour les autres. Bon. Non, l'homme n'est pas toujours responsable du mal. Je disais tout à l'heure que le couvercle, il a une double paroi. Il y a un mal, quelque chose que l'on vit comme un mal, qui n'est la faute de personne, qui est la faute tout simplement de la vie. Nous sommes faits d'hydrogène, d'oxygène, de carbone, et ça, c'est un cycle qui fait que, quand on est vivant, on est mortel. Voilà. Alors, ce vivant-là, dans l'idéal, il va fonctionner pendant 120 ans, mais il y a des tas de raisons qui font que, parfois, et souvent, ça ne fonctionne pas aussi longtemps. Bon. Et un enfant qui naît avec un cancer, ben voilà, c'est la faute ni de ses parents, ni de... Voilà. C'est la vie. Ouais. Bon. Alors, c'est un peu rapide de dire ça. Alors pourquoi Dieu, puisqu'il a créé la vie, il ne l'a pas créée parfaite ? Il ne l'a pas créée parfaite du premier coup. Voilà. Mais il y a des questions qui restent sans réponse. Mais par contre, la question est-ce que l'homme est toujours responsable du mal ? Non. La Bible, elle dit peu de choses sur ça, et franchement, je préfère ça, mais elle dit quand même quelque chose. Et c'est contenu dans cette notion de péché ou blessure originelle. Il y a un dysfonctionnement à un moment donné, et ce dysfonctionnement, il est lié à une liberté qui a dit non à Dieu et à la vie qu'il offre. Le jardin, l'homme, la femme, vous pouvez toucher à tout, sauf... Puis le serpent, monsieur, allez-y. Et patatras, tout s'effondre. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que dit la Bible. On n'est pas bien avancé avec ça seulement, hein. Mais quelque chose est dit malgré tout dans ce récit-là. Il y a une liberté quelque part qui a dit non à Dieu et qui a enclenché un premier remous sur la surface lisse du lac, quoi. Et de remous en remous, ben, le lac, il est agité. Ça reste un mystère. Alors mystère, ça ne veut pas dire circuler, il n'y a rien à voir et rien à comprendre. Ça veut dire on ne peut pas tout de suite, avec notre seule raison, tout comprendre. Mais on peut quand même accueillir quelque chose. Et avec la raison, et avec la confiance. Voilà. Je ne peux pas dire beaucoup plus que ça. Dernière question formulée ici. N'est-ce pas tendre vers l'idéal qui est possible, plutôt que l'idéal lui-même ? C'est quoi l'idéal ? Bon. Alors, je ne comprends pas à 100% la question. N'est-ce pas tendre vers l'idéal qui est possible plutôt que l'idéal lui-même, plutôt que atteindre l'idéal lui-même. Pour moi, la sainteté, c'est pas être arrivé, c'est être en marche vers. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, hein. Sainte Bernadette Soubirous, qui fait partie de mon panthéon personnel et portatif, quand elle, jeune, avant de quitter Lourdes pour Nevers, elle va voir le saint du coin, là, à Bétaram, Saint-Michel Garicoïx, c'est à côté de Lourdes, un prêtre réputé pour être saint déjà, et en effet, il le sera plus tard officiellement, fondateur des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, la congrégation des pères de Guy de Bétaram. Bon. Et quand elle sort de son entretien avec Michel Garicoïx, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, quelqu'un lui dit « Ah, ben toi, tu as vu la Vierge ?» Ça n'a pas été encore officialisé que c'est la Vierge. Enfin, on lui dit « Tu as vu la Vierge, tu es sûr d'aller au ciel ?» Et elle répond, tout à trac, « Le ciel, si je veux y aller, il faut que je me le gagne. » Alors, c'est ambigu comme question, comme réponse. En même temps, c'est intéressant. Être saint, l'idéal, c'est ça, hein, c'est la sainteté. C'est être avec Jésus, avec Dieu, quoi. C'est ça. C'est ça, l'idéal. Et vivre de son esprit, vivre de vivre selon l'esprit des béatitudes. Quand j'étais au lycée, en classe de première, dans un lycée public, dans le bouquin, le manuel des élèves de classe de première, de littérature, le texte des béatitudes était présenté comme la charte des chrétiens. Voilà, l'idéal, c'est ça, c'est être avec Dieu. Et être avec les autres en Dieu, avec les autres comme frères. Ce n'est pas y être tout seul. Le Concile dit l'unité du genre humain, fraternité, et l'union avec Dieu. Voilà, la formulation de l'idéal, c'est ces deux mouvements-là. Fraternité et union en Dieu. La sainteté, dans la définition que l'Église en donne, c'est pas en être arrivé là, mais c'est être en marche vers ça. Avec ce qu'on est. Avec ses limites, avec ses allées, ses retours, ses marches en avant, ses marches en arrière. Mais désirer ça, que le cœur soit tourné de ce côté-là. Et quelqu'un qui a fait ce choix-là un jour, et pour qui les obstacles de la vie n'ont pas détourné de ce choix, après la vie est ce qu'elle est, hein, peut être déclaré saint.